Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Je suis Luc Desormeaux et pour m'accompagner cette semaine, mon collègue, mon ami, Monsieur Marc Bouchard. Salut Marc!
Hey, je te pensais coincé dans ton sous-sol, toi.
Je suis coincé dans mon sous-sol, mais les rénovations de sous-sol, c'est un peu comme quand tu rentres à l'hôpital. Tu sais quand est-ce que tu rentres, tu sais pas quand est-ce que tu sors. Ben ici, tu sais quand ça commence, mais tu ne sais pas quand ça finit. Parce que, ben, tu sais, les assurances, puis les gens qui sont venus pour voir les dommages et tout ça, et celui qui prend les choses en main pour décider combien de temps ça va prendre, combien ça va coûter, eh bien, parfois, ils oublient quelques petits détails que les contracteurs, ceux qui font les travaux, vraiment savent et qu'eux ne savent pas. Donc, ce qu'ils ne savaient pas, il semble, c'est que quand tu achètes du plancher flottant, qu'il soit vinyle ou bois, il faut qu'il passe environ 72 heures au repos dans la pièce ou dans l'environnement où il va être installé pour que ça s'adapte à l'humidité, à la température et tout ça. Donc,
même moi, je savais ça.
C'est
et
ça.
Dieu sait que je ne suis pas un exemple de bricolage.
Donc, il avait planifié des travaux cette semaine, des travaux la semaine prochaine, et ça finissait théoriquement le 28, donc la semaine prochaine. Et puis, finalement, ben, ils ont arraché un peu, mais il n'y a rien de commencé. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment est-ce qu'ils vont se revirer de bord, parce que c'est ça. Ça commence à prendre plus de temps que ça aurait dû. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis seulement... Comme on dit, moi je prends pas de décision, je fais juste travailler ça. Donc c'est ça. Moi je fais juste attendre qu'ils viennent. Mais présentement, il y a une grande partie de mon sous-sol qui est sur le ciment. Mon bureau est intact parce que j'ai demandé de laisser mon bureau intact pour l'instant. Fait que je peux quand même faire mes choses, là, mais tu sais, tout est serré, là, fait que je peux plus faire de vidéos sur mes imprimantes, sur ma chaîne YouTube. Il y a plein de choses que je peux plus faire parce que c'est serré ou c'est tellement encombré que je peux même pas me rendre là. Mais bon, on va espérer que d'ici les prochaines semaines, ça va être réglé. Mais bon,
Ouais,
c'est ça.
parce que honnêtement, je t'avoue, je vais être franc, je n'attendais pas de toi que tu sois là cette semaine. J'étais persuadé que tu n'y serais pas, mon
Ben
cher.
moi non plus, je pensais pas y être parce que théoriquement, il y avait des travaux qui se faisaient chez nous ce matin dans le sous-sol. Fait que ça aurait été dur d'enregistrer un podcast avec des scies et des marteaux et ces choses-là dans la pièce juste à côté. Puis que, tu sais, quand faut que tu cries pour parler à l'autre, puis l'autre pense que tu cries après, c'est juste parce que t'essayes de...
De toute façon, tu cries toujours après tout le monde, donc c'est
Ouais,
honnête.
c'est vrai, je suis un homme comme ça. Donc, Marc, on va parler de char, parce que les rénovations de mon sous-sol, ça intéresse personne. T'as été invité par Chevrolet, hein?
Oui.
Qui ont dû perdre mon adresse courriel, pour aller essayer le nouveau Blazer. Je trouve ça un peu bizarre parce qu'on dirait que tout le monde ressort des VUS, des camions, puis le prix du gaz commence à remonter. Donc, je sais pas ce
Ouais,
que
je
ça
trouve
va
quand même.
donner, mais bon.
En même temps, c'est ça qui se vend, là.
Ouais, je sais, c'est ça
Je
qui se vend, mais tu as vu la tendance, c'est qu'à un moment donné, tout le monde achetait des gros VUS, le prix de l'essence a commencé à monter. Ah, tout le monde vendait leurs VUS pour s'acheter des plus petites autos, des VUS qui consomment moins. Le prix du gaz a redescendu, puis là, le monde a réacheté des VUS, puis là, le prix du gaz a recommencé à remonter. C'est
Oui,
comme...
mais je vais te parler tantôt, un petit peu plus tard, d'une petite étude à ce sujet-là que j'ai trouvé fort intéressante. Bon, elle est commanditée par Nissan, mais je vais quand même te parler d'une étude là-dessus,
OK.
effectivement.
Mais en autant qu'elle n'est pas commanditée par Petro-Canada, on est correct.
Non, pas vraiment.
Bon, fait que parle-nous ça de ce petit moyen Blazer-là qui fait un retour après plusieurs années d'absence.
Oui, mais de rien à voir avec l'ancien, là.
Ouais, on
Non, mais
garde
c'est
les
parce que.
noms.
On regarde le nom, mais c'est pas du tout la même personnalité.
OK.
Il faut savoir que le nouveau Blazer est un véhicule qui est physiquement super beau. Moi, je le trouve très, très joli. Inspiré par la Camaro, la partie avant, c'est la grille de la Camaro. Quand on regarde à l'intérieur, les buses de ventilation rondes, c'est inspiré de Camaro. On a vraiment voulu jouer la carte beaucoup plus sportive avec ce véhicule-là.
OK. C'est-tu une bonne chose? Parce que me semble que les bus de la Camaro, les bus d'air de la Camaro à l'intérieur, c'est pas son point le plus fort. Mais
Moi, je trouve ça beau, là. Je trouve
ouais,
pas
c'est
ça
beau, mais
laid.
c'est la fonctionnalité qui est un peu... Non? Ça
Non,
fait...
ben,
OK.
objectivement, ça m'a pas dérangé.
OK,
Mon Dieu,
OK.
d'ailleurs, serais-je devenu plus tolérant? En tout cas, bref,
Possible.
ça ne m'a pas dérangé à ce point.
OK.
Au contraire, je trouvais que ça venait comme confirmer un look. Puis ça, je trouvais ça intéressant parce que, justement, c'était vraiment je dirais un bel ajout. À un style que je trouvais vraiment, vraiment super cool.
OK.
Je suis très franc avec toi. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce véhicule-là. J'ai trouvé qu'il y avait toutes sortes de choses fort intéressantes au niveau du, Oui, du look, bien entendu, des fonctionnalités, au niveau du plaisir de roulement aussi, ça a été agréable. Bon, il faut préciser aux gens qu'on est allé dans la région de Charlevoix avec le véhicule. Donc, ça veut dire, entre autres, qu'on s'est promené un peu dans les côtes.
Oui, hein, c'est assez montagneux dans ce coin-là.
Ouais, c'est ça. On s'est rendu dans le coin de Baie-Saint-Paul, on s'est rendu dans le coin de. En tout cas, on en a fait pas mal. Et c'est un véhicule qui est vraiment cool parce que. Il est bien fait, il est silencieux, il est agréable et il est pratique. Bon.
OK.
Parce qu'il y a toutes sortes d'affaires. Il y a les moteurs, moteur 4 cylindres, 193 chevaux, moteur plus puissant, V6, 3.6, 308 chevaux. Ça fait le travail tout à fait. Jumelé en boîte automatique, 9 vitesses, vraiment qui a bien fonctionné, qui n'a pas eu de problème majeur malgré les côtes. On se serait attendu à beaucoup plus que ça. Parce que, bon, comme tu sais, parfois dans les côtes, c'est pas facile.
Ouais.
Donc, j'ai trouvé que ça faisait bien le travail. Mais tu sais, la raison pour laquelle j'en parle pas plus que ça, c'est que, objectivement, il y a peu de choses à dire à ce niveau-là. C'est-à-dire que oui, ça va bien. Oui, c'est un véhicule qui répond, dont la puissance est ma foi, plutôt intéressante au niveau de ce qu'on veut, là, quand on s'entend pour dire que c'est pas un véhicule extrême, là.
Non,
Tu
non.
sais, c'est un véhicule plus joli, plus gentil, et qui est cute et qui est là beaucoup pour le look.
C'est bon.
Il est quand même capable de remorquer quelques milliers de livres, ça, faut le préciser. Fait que ça, c'est pas vilain non plus, parce que ça remorque quand même de façon intéressante. Et c'est surtout un véhicule qu'on a voulu excessivement technologique.
OK.
On a joué vraiment beaucoup, beaucoup la carte de la technologie dans ce véhicule-là. Bien sûr, toutes les technologies embarquées que l'on connaît déjà, que tu connais déjà mieux que moi probablement,
Le
là.
CarPlay, Android Auto, reconnaissance vocale, toutes ces choses-là. Je me
Exactement.
aide à la conduite, j'imagine, toutes les.
Ouais, toutes les aides à la
Okay.
conduite. Le problème, en fait, c'est que là, ça devient des groupes d'options, tu sais.
Ah ben
Une
oui.
telle option est disponible à telle place, puis telle option est disponible à telle place, puis bon.
Un
Ça
1000 pièces
devient.
ici, un autre 1000 pièces là, un autre 500 pièces ici, là, dans Orbit
Ouais.
Epsilon. Ouais.
Puis c'est là qu'il y a un problème, parce que, en fait, autant le véhicule est super le fun, puis que j'ai beaucoup aimé, autant quand on inclut transport et préparation, le prix de base, c'est 35 000 piastres. Tu
OK,
sais,
ouais.
fait que ça commence à devenir sérieux. Puis il y a comme trois versions. Tu as la version Blazer, qui est la version de base. Tu as la version RS, qui est la version sport du milieu, qui elle arrive avec des grilles noires, avec des roues noires. Bon, possibilité d'être montée sur des 21 pouces. Non, je pense que c'est juste la première qui peut être montée sur des 21 pouces. En tout cas, bref, on est vraiment là-dedans. Par la suite, ben, tu as la version première, qui elle est la version de luxe. Mais écoute, si tu prends une version première et que tu ajoutes la totalité des équipements disponibles en option, tu as un char de 60 000 piastres.
Ouais, il y a beaucoup de choses de disponibles à ce prix-là.
C'est ça.
Qui sont probablement un peu mieux, ouais, c'est ça.
Ben, c'est là que ça devient compliqué, parce qu'effectivement, tu te retrouves avec un véhicule qui est quand même là, compétitif avec d'autres, mais à 60 000 $, tu as pas mal de choix.
Ouais.
On parlait de remorquage, c'est 4 500 livres la capacité avec le moteur 3.6 et le rouage intégral. Faut préciser que le rouage intégral ne vient pas avec le 4 cylindres, mais il vient, mais en option.
OK.
Sinon, tous les V6 ont le rouage intégral. Donc, tu sais, il y a toutes sortes d'affaires comme ça qu'il faut que tu regardes, qu'est-ce qui est compris, qu'est-ce qui n'est pas compris et tout ça. Dans l'ensemble, c'est un véhicule qui va bien, qui est doux à conduire, que tu peux utiliser, tu peux changer les modes de conduite et vraiment, ça fait une différence. C'est un véhicule aussi qui se comporte bien, comme je te l'ai dit, dans les côtes. J'ai pas vraiment fait beaucoup de conduite dynamique. Donc, c'est difficile pour moi de te dire, là, si au niveau de la tenue de route, il est assez exceptionnel. On était beaucoup sur les routes qui nous mènent à Charlevoix, qui sont un peu plus de ligne droite. Et quand on était dans des zones plus accidentées, ben on était en zone urbaine, donc on faisait un peu plus attention.
Ouais.
Par contre, je t'ai parlé de technologie, puis là, il y a vraiment des affaires. On a misé beaucoup, par exemple, sur la définition d'un profil d'usager. Alors, quand tu arrives, tu as défini ton profil d'usager avec ton porte-clés, et là, ça te permet justement d'être plus facilement. Comment je pourrais dire? Plus, t'sais, tout est déjà préprogrammé. Tu peux préprogrammer, bon, ta température et tout ça, là, c'est reconnu pour ça. Mais même ton GPS, si tu avais rentré une destination, va conserver cette destination-là pour toi.
OK. OK,
Tu sais,
c'est bien
là,
ça.
oui, c'est vraiment un profil assez complet. Et ça, c'est intéressant. Parce que, bon, tu arrives, puis tu n'as pas T'sais, quand tu partages la voiture avec quelqu'un, c'est le fun d'arriver puis d'avoir vraiment la paix là-dessus, là.
Et là, j'imagine que tu parles de cette option-là, c'est probablement dans la version première, pas dans la version de base, là.
Dans la version RS, en fait.
OK, parce que c'est ça. Parce que est-ce que tu as ce qu'on appelle la facilité d'accès, c'est quand tu descends de l'auto, le volant remonte, le siège se recule,
C'est
puis
ça.
quand tu te replaces, il sait exactement à cause de ton porte-clés, à quelle distance tu as placé ton siège, quelle hauteur tu as placé ton volant, tout ça, là.
Ouais, mais c'est beaucoup plus que ça, là.
OK,
C'est
non, mais
les...
déjà là, c'est déjà pas si pire que ça se
Oui.
rappelle, juste avec la clé, là. T'sais.
Mais tu as tout, là. Tu sais, tu as tout l'éclairage, la station de radio, le volume, le niveau de climatisation, comme je te disais, le GPS et tout ça, ça c'est intéressant.
Okay.
Tu as aussi, bien sûr, toute la définition connectée de GM, là. Tu sais, quand tu es branché, tu as un hotspot, donc tu peux brancher du Wi-Fi dessus. Tu peux, bon, évidemment, c'est un abonnement à payer, mais ce qui est intéressant cependant, c'est qu'il fait des recherches ciblées à partir d'une banque de données que GM gère. Entre autres, tu dis, ben moi, je veux faire le plein. Mais je vais faire le plein chez Shell parce que j'ai une carte fidélité ou n'importe quoi. Ben, tu peux dans le GPS faire une recherche pour les Shell les plus proches. Et non seulement il va t'amener les Shell les plus proches, mais il va te dire aussi à quel prix le litre il vend son carburant.
OK, c'est quand même pas super. Ouais.
Alors, on est vraiment comme je te dis, dans une connectivité assez pointue à ce niveau-là. Ça, c'est intéressant. L'espace de chargement qui est intéressant aussi, l'espace qui fait 1150 litres ou à peu près, les banquettes se replient complètement à plat. Ça aussi, c'est pas négligeable. Et à ce moment-là, il y a aussi, on a créé une espèce de système qui est une espèce de barre, là, tu sais, pour rattacher ton stock, comme tu as souvent, mais cette barre-là, elle est mobile. Donc, tu peux la déplacer d'avant vers l'arrière.
Moi, il y avait ça d'un Cadillac que j'ai essayé à un moment donné, ou ce que
Oui,
t'avais.
mais
Ouais.
là, en plus, tu peux la déplacer d'un côté, latéralement.
OK.
Donc, tu peux comme la mettre en angle, ce qui fait que ça te permet vraiment de diviser l'espace arrière comme tu veux et d'avoir un maximum d'usage. Alors,
OK.
ça, c'est pas inintéressant non plus.
Ouais, pas
Et
vilain.
là, et toujours en matière de technologie, ben là, on a le fameux rétroviseur vidéo,
Ouais, ce
là.
qu'il y avait dans la Volt.
Oui, mais maintenant, c'est la génération 2. Donc, tu peux régler, bien sûr, la luminosité de l'image que tu as, mais tu peux aussi régler le zoom.
OK.
Donc, tu as trois distances de zoom différentes à partir de ça. Et bon, honnêtement, j'ai trouvé ça cool parce que autant la première, puis la définition est beaucoup meilleure. Hein. Je vais te le dire, là. On n'est pas dans le même monde, là. La définition est vraiment beaucoup meilleure. Alors, autant le premier, quand je le laissais en fonction, puis que je roulais, j'avais toujours quelque chose qui m'accrochait l'œil, puis ça me dérangeait, ça me donnait un petit peu mal au cœur, à la limite, là. Autant celui-là, j'ai pas ressenti cet élément-là.
Ouais, ben c'est quelque chose qu'il faut s'habituer parce que quand on regarde dans notre rétroviseur, on est habitué de voir les sièges arrière, le coffre avec la vitre arrière, puis on voit à l'arrière à travers un miroir. Mais là, c'est une caméra qui est à l'arrière. C'est la caméra de recul, finalement, comme on comprend pour te monter ton
Non,
rétroviseur. Ben,
c'est une autre caméra.
c'est quelque chose de ce genre-là, mais c'est le fait de pas voir ce qu'on est habitué de voir qui est déstabilisant au début.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Mais c'est vraiment pas le cas. On est vraiment dans c'est une caméra différente
OK.
qui est logée aux côtés de la caméra de recul et qui, au bonheur, dispose maintenant d'un lave-vitre.
Ah, OK, ouais, ça vient inutile assez rapidement, ces caméras-là.
Ouais, mais là, avec un juste simple pression du lave-vitre, ça lave et ça nettoie la caméra et ça fait vraiment bien le travail.
OK.
Alors ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Et toujours en matière de caméra, on parle de caméra de recul. Ben, moi, je suis un peu sans dessin quand vient le temps de remorquer, OK? Mais je suis encore plus sans dessin quand vient le temps d'aller accrocher la remorque après mon camion.
Ouais, c'est pas facile.
Non, mais là, tu as une caméra qui te guide avec une ligne directrice. Donc, tu suis la ligne, ça t'enligne directement sur la boule vers la remorque.
OK.
Et comme tu as une vue de haut, mais tu vois vraiment quand la boule arrive au bon endroit.
OK, donc
Donc, tu peux le faire
finalement
tout seul.
c'est le Ford Trailer Backup Assist.
Ouais, mais sans programmation. Parce que tu n'as pas la petite molette qui te permet de reculer. Hein.
Non, non, mais au moins
C'est.
t'as une partie du système qui te montre. Quand tu
Exact.
recules, qui te montre où se déplacer, là, c'est quand même
Exactement.
bien. Ouais, c'est
Exactement.
facile.
Puis ça, c'est intéressant parce que à ce moment-là, ben justement, t'es pas à la merci d'un gnochon quelconque qui va te dire comment reculer puis que tu t'y reprends 8 fois là,
Ouais, c'est ça. Ouais.
avec la caméra servie. Alors, objectivement, j'ai beaucoup aimé ce véhicule-là. Alors, bien sûr, il y a des défauts là, mais j'ai beaucoup aimé en général ce véhicule-là. Mon gros, 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 gros bémol, c'est le prix. On dit prix de base là, de base le plus bas, 33 000. moins les. Ben, évidemment, faut toujours t'additionner les frais supplémentaires. Puis rajoute à ça ben, jusqu'à 60 000 $ selon les options que tu prends. Je t'avoue que ça, c'est un peu intense. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de compétiteurs auxquels on s'expose. Mais c'est un véhicule qui va très bien et qui, à mon avis, est très, très joli.
Puis on tombe dans quelle catégorie pour la compétition là-dedans? Ça se présente contre quoi?
C'est une bonne question.
OK.
Honnêtement,
Même
j'ai pas
GM
eu.
le sait pas, quoi.
Ben, ils ont pas fait de comparaison
OK.
comme celle-là. Et puis honnêtement, je ne saurais pas avec quoi le comparer.
En termes de grosseur, on est dans
Ben, on
quoi?
est dans le Murano, par exemple.
OK.
Mais t'sais, puis c'est probablement le Murano qui est le compétiteur le plus vrai parce que c'est vraiment le style, le design. C'est ça qu'on misait sur Murano, c'est ça qu'on mise aussi sur
Le
le
blazer.
Blazer, là.
OK, parfait. Donc c'est beau, Marc. On va terminer là-dessus. On va faire une pause et on va revenir tout de suite avec les essais. Puis on va aussi parler de Tesla. Nous sommes de retour. Et Marc, après une petite pause où on a parlé d'autres choses, on va retourner aux voitures et tu vas nous parler de ton essai d'un BMW, le X4, qui est un VUS à cause du X.
Ouais, le X4 M40i.
Bon, il me semblait bien que c'était BMW puis qu'X4 c'était juste trop court pour un nom.
C'est ça, c'est exactement ça. On est vraiment dans un monde assez spectaculaire.
Ouais.
C'est effectivement, c'est un VUS, tu l'as mentionné. Comment je pourrais dire? C'est particulier parce qu'on ne sait pas trop quel genre. Parce que c'est les fameux VUS coupés, là.
Ouais.
Bon, moi j'adore ça. Je trouve ça super génial. C'est très beau, mais c'est particulier. C'est
Ouais.
assez unique comme façon de présenter le véhicule.
Parce que normalement, c'est joli, mais c'est à l'intérieur où on perd de l'espace justement à cause du coupé. Les personnes, normalement, les passagers arrière, c'est un peu moins spacieux, mais ça.
Effectivement.
OK.
Mais en même temps, tu sais, je vais être franc avec toi, là, ça ne me.
Ça te dérange pas.
Ben, non, parce que c'est un véhicule qui est vraiment cool à
OK,
conduire.
c'est bon.
Vraiment, vraiment. Écoute, bon, c'est sûr, c'est un 6 cylindres biturbo. C'est un petit peu un monstre, là, tu sais, en termes de puissance, là, on n'a rien à y redire. Et au niveau de la conduite, c'est typiquement BMW. Même si c'est un VUS, là, on est typiquement dans le BMW, dans la conduite spectaculaire, directe, précise. Si tu le mets en mode sport, tu as le vroom-vroom du moteur qui embarque par-dessus. On sait que c'est poussé électroniquement, mais on s'en fout. On aime ça pareil.
Non.
Tu sais, là, c'est vraiment juste un beau, beau, beau véhicule. C'est un véhicule qui va bien, qui se comporte bien, qui est confortable. Tu sais, honnêtement, là, c'est un véhicule qui est tourné vers le pilote. C'est un véhicule, surtout que c'est le M40, donc c'est la version un petit peu plus brutale, un peu plus intense du véhicule. C'est vraiment un véhicule qui est tourné vers le pilote. C'est un véhicule qui va t'amener à te. On dirait que tu fais exprès pour accélérer vite, parce que vraiment, tu ne te possèdes plus, là. C'est vraiment un peu incroyable comment c'est fait. C'est vraiment, vraiment le fun à conduire. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, en tout cas, et j'aime toujours parce que je l'ai encore pour quelques jours. C'est, comment je pourrais dire, tu sais, chez BMW, c'est pas le côté pratique du tout, du tout,
Non.
qui fait que on est là, pas
C'est
du tout.
supposé être la conduite. L'intérêt, c'est de conduire ce véhicule-là.
Totalement.
Ouais.
Et on l'a réussi très, 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 très bien avec ce X4-là. Un véhicule qui vraiment, là, à plein point de vue, est intéressant. Bon, évidemment, il reprend le même châssis que le X3. Donc, c'est un véhicule qui est à peu près dans ce format-là, un peu plus grand. Un véhicule qui est élégant, qui est pratique, bon, un grand écran central, la molette pour le iDrive qui permet de contrôler tout ce qui est entertainment.
Divertissement, ouais.
C'est ça, l'infodivertissement. Un bon espace de chargement, on parle de 525 litres d'espace, à peu près 1430 si ça baisse les banquettes, puis ça se fait assez bien aussi. C'est vraiment là. Bon, tu as la reconnaissance gestuelle qui est là. Reconnaissance gestuelle où tu fais vraiment là, juste tu tournes puis le doigt devant, puis le son augmente.
Ouais, OK. Le système qu'on a déjà parlé, que t'avais, il y a ça presque dans toutes les BMW maintenant, là.
C'est ça. Sauf qu'eux autres, c'est vraiment la version de base. Tu n'as que le son et les changements de poste. Dans la M850, il y avait autre chose, là. On pouvait faire toutes sortes d'autres manœuvres, mais dans ce cas-ci, il y a seulement ça.
C'est bon.
Je t'ai parlé du moteur. T'sais, bon, c'est un moteur qui est 6 cylindres, 4 litres, là. 355 chevaux, 365 livres-pieds de couple. 0-100, 4,6, 4,7 à peu près. Évidemment, je ne l'ai pas fait. C'est une version M40. C'est pas un vrai M au sens propre, c'est-à-dire que c'est pas là.
Un M4, un M3, un quelque
Non,
chose comme ça,
c'est pas ça.
là.
Mais il est quand même, il affiche quand même cet élément-là de puissance avec des freins surdimensionnés, des étriers M. Vraiment, c'est un véhicule bien équipé. Fait que dans l'ensemble, c'est un véhicule qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup attiré, m'a beaucoup impressionné, malgré son look un peu particulier. Fait que c'est un véhicule que j'ai beaucoup aimé. 66 000 $ de prix de base, ce qui est quand même pas si mal.
Ça va chercher le modèle, le maximum du prix de ton blazer de tantôt, à peu près.
Exactement, mais sauf que là, c'est la version de base. C'est sûr que, bon, tout ce qui vient avec un BMW comme ça, le luxe. Consommation aussi, quand même. Sur autoroute, c'est assez raisonnable, hein. Je me suis rendu à Québec avec et je suis revenu. Ça a quand même été pas si mal. Au niveau de, j'ai fait comme 9 litres à peu près au 100 au moment où je roulais sur autoroute. Évidemment, quand tu arrives en ville, ben là, c'est un petit peu plus, disons, intense.
Ouais, consomme un peu plus, hein?
Ouais, j'ai fait comme 13,5 à peu près, là.
OK. Ouais.
Ce qui est quand même fort raisonnable, mais qui n'est pas, encore une fois, pas exceptionnel. Donc,
Non.
objectivement, c'est un véhicule, si tu aimes le look, l'espèce de look coupé, ça plaît pas à tout le monde. J'ai eu des commentaires très partagés entre les deux. On est en matière de conduite, il y a peu de choses à dire contre ce véhicule-là. Les suspensions qui sont absolument incroyables, t'as pas de transfert. C'est vraiment très, très, très cool. Et ça va très, très, très bien. Fait que, tu sais, sincèrement, là, c'est un véhicule. Moi, je me l'achèterais pas parce que le look me laisse un peu. Ben, j'aime ça, je trouve ça beau, mais je ne sais pas si à terme, ça me fatiguerait pas un peu.
Bon, c'est comme avoir un auto jaune dans ton entrée, c'est peut-être beau pour le premier 2 mois, mais après ça peut commencer à te gosser un
C'est ça, il y a cet élément-là.
peu. C'est ça.
Et l'autre élément, ben, c'est vraiment le côté BMW, où des fois je me tanne un peu, moi, d'aller fouiller dans le menu, puis de chercher ce que je cherche. T'sais. Puis je regardais, par exemple, il est supposé avoir un hotspot que tu peux brancher sur le Wi-Fi.
OK.
Quand j'allais voir avec mon téléphone intelligent, je détectais le réseau, mais j'ai jamais trouvé la place pour le mettre en vigueur puis changer le mot de passe.
OK.
Puis j'ai cherché pourtant dans le menu, là, mais je ne l'ai pas trouvé. Fait que, tu sais, c'est des trucs comme ça. Des configurations, on parlait de commandes gestuelles. Tu peux configurer, tu sais, le geste à deux doigts, par exemple, mais tu as comme deux options. Tu sais, là, c'est comme. Ouais, tu peux configurer, mais juste un petit peu. T'sais. Fait qu'il y a des éléments comme ça qui ne sont pas tout à fait poussés assez loin à mon goût. Mais en matière de conduite, en matière de tenue de route, c'est un véhicule qui va super bien. Puis comme je te dis, quand tu le mets en mode sport, là, puis que tu entends le ronron du moteur, mais je le dis, moi, j'avais la version quand même avec le moteur 4 litres, là, le moteur le plus gros. Il existe une version avec un moteur plus petit, qui part à 53 000 $. Et là, on parle d'un moteur de 2 litres, 4 cylindres turbo-compressé, 248 chevaux. Je ne l'ai pas essayé, mais ça doit être amplement suffisant pour les besoins de la course.
Ça doit. Ça coûte peut-être un petit peu moins d'essence aussi.
Probablement. Quoique, en général, ils sont assez. Je pourrais dire assez économiques. Quand même sur les plus gros, parce que c'est des biturbos. Mais évidemment, c'est sûr que c'est inclus dans la plupart des achats. Mais ce qui est indispensable dans ce genre de véhicule-là, c'est un entretien religieux. Parce que avec des turbos comme ça, si vous n'entretenez pas comme il faut, vous risquez d'avoir de sérieux problèmes à terme.
Ouais, et ça va coûter cher si vous suivez pas votre carnet de maintenance parce que BMW va sûrement vous le rappeler.
Exactement, tu as tout
Ouais.
compris.
Parfait. Donc, c'est bon pour ça. Marc, maintenant, on va parler de Tesla. Juste pour dire rapidement, j'ai conduit brièvement une Tesla 3 ce week-end. J'ai un ami qui s'est acheté une Tesla 3 il y a quelque temps. Et puis, il l'adore. Il a même été jusqu'en Louisiane avec. fait un tour au Texas, revenu, et franchement, il a vraiment aimé son véhicule. Lui, il a eu aucun problème avec son véhicule. Il n'y a pas eu de problème. Tu sais, on parlait de pare-chocs qui décollaient ou de choses comme ça. Lui, il n'y a eu aucun problème avec sa Tesla à date. Et pour avoir fait un tour dedans, c'est vraiment très bien. Quand on la déchaîne un peu en mode sport, je dirais pas que c'est aussi réactif que le Jaguar I-Pace, qui est vraiment un petit peu hors de toute catégorie de ce que j'ai essayé à date, là. Mais c'est quand même assez impressionnant, les accélérations, le confort est là. L'intérieur, faut s'habituer, par exemple, parce que il y a rien, même ma conjointe l'a regardé et a dit hey, ça fait vraiment bizarre hein, de ne pas avoir de mètres en avant du visage quand on conduit. C'est juste le gros écran au milieu, le restant c'est juste comme une planche de bord avec du bois au milieu, puis il y a juste le gros écran au centre, il y a rien d'autre, c'est très très épuré. Mais tu sais, pour le temps que j'ai passé dans le véhicule, j'ai trouvé ça vraiment vraiment agréable. Donc c'est mon essai de la Tesla 3. Marc, t'as d'autres choses, toi, t'as quelque chose peut-être moins positif sur Tesla selon ce que tu m'as dit en partant.
Ouais, ben je vais quand même vous prévenir, si vous êtes des amateurs de Tesla, maintenant est peut-être le bon moment d'arrêter d'écouter le podcast.
ou prenez-vous un crayon et un papier, Marc va donner son adresse courriel à la fin.
Écoute, en fait, le problème, c'est que Tesla, c'est une compagnie qui a vraiment changé les choses. Hein. Ça, on s'entend là-dessus. Mais c'est aussi une compagnie, surtout un dirigeant, je te dirais, qui a regardé tout le monde de haut pendant longtemps, qui s'est permis des commentaires sur tout le monde et qui, a fait plein de promesses, puis est très, très présent dans le marché des médias sociaux et partout, veut vraiment se donner une présence. Alors, inévitablement, quand tu fais ça, le problème, c'est que tu t'attends au rebound quand ça va pas bien.
Hein? Ouais,
je pense que ça, c'est parfaitement logique. Ben là, ça va moins bien. Et là, les gens vont dire, oui, mais non, on va arrêter là. D'abord, là, on va y revenir, là, mais l'attitude des propriétaires de Tesla maniaques, là, ça, c'est un autre débat qui va. On va commencer par parler des affaires. La première, on en a déjà parlé, mais c'est quand même fascinant, la fameuse peinture qui écaille sur les Tesla Model 3.
Ouais.
Écoute, il y a eu une dénonciation qui a été faite à TVA Nouvelle par un propriétaire de Tesla, entre autres, qui a écrit à Tesla, et plusieurs l'ont fait, pour aller demander écoutez, pouvez-vous réparer ça sous garantie? Réponse de Tesla, non, pas du tout. C'est pas de notre faute, c'est la faute du gouvernement du Québec parce qu'ils mettent trop d'abrasifs sur les routes. Fait que c'est votre faute. Donc, Tesla refuse de corriger le problème.
OK.
Là où il commence à y avoir des problèmes, c'est que le même monsieur qui a porté plainte a trouvé qu'en Finlande et en Suède aussi, il y avait le même genre de problème. Et qu'il y a des gens là-bas. Donc, lui, il vient d'envoyer une mise en demeure à Tesla pour réparer son véhicule et ça va probablement être suivi d'un recours collectif pour cette fameuse peinture qui écaille. Ouais. Donc, Tesla nous dit « Non, c'est pas de notre faute, c'est de la vôtre. » Ça me paraît un peu intense comme réponse de la part de Tesla.
Oui, mais c'est une réponse d'une compagnie qui, tu sais, oui, a de l'argent, mais ça va pas super bien. Ils ont eu des problèmes.
Mais ça, on va y revenir à l'argent, et ça, c'est le deuxième point.
Oui, c'est ça, mais tu sais, Tesla, c'est facile pour Tesla de dire non, le problème c'est le gouvernement du Québec. Ouais, mais c'est parce que si on regarde la flotte de voitures sur les routes du Québec, c'est pas toutes les voitures qui écaillent puis qui ont des problèmes. Donc,
puis il y a pas rien que des Tesla sur la route, puis à ma connaissance, c'est pas mal les seuls que la peinture part de même. Là,
ouais, il y avait les Mazda 3 avant 2008, là, mais.
C'est ça, ouais, mais on parle de 2008.
Ouais, c'est ça.
On est en 2019, ça fait quand même 11 ans. Là.
Ouais, c'est beaucoup moins pire pour les autres depuis ce temps-là. Là. Ouais.
Alors, tu parlais de Tesla qui a de l'argent. Bon, Tesla vient d'émettre des obligations, 2,7 milliards de dollars. OK? Mm-hmm. Mais M. Musk a envoyé une lettre, un mémo interne à tous ses employés en disant « Écoutez, savez-vous, on a de l'argent, 2,7 milliards plus un peu de liquidité qu'on avait. On en a pour 10 mois. Si dans 10 mois, on n'a pas atteint le seuil de rentabilité, il y aura des conséquences. »
Donc, normalement, c'est des mises à pied.
Ou n'importe quoi d'autre. On ne sait pas exactement. Mais quand ton président te dit ça, ça commence à être un peu inquiétant.
Ça regarde mal un peu. Ouais.
Mais attends, il va plus loin que ça. Il dit que toutes les dépenses de l'entreprise vont être scrutées à la loupe. Toutes, y compris les comptes de dépenses, les repos restaurants et le kilométrage des employés. C'est le directeur financier de Tesla qui va autoriser toutes les dépenses.
Bon, fait que.
Et Elon Musk lui-même va signer à toutes les 10 pages de toutes les dépenses de la compagnie.
OK.
Ça commence à être du solide micromanagement, là.
Ben,
hein?
Si t'es un employé chez Tesla, t'es mieux de commencer à aimer boire ton café noir.
Ouais, et.
Le écoute, sucre puis le lait va se faire rare.
Et là, t'as Elon Musk qui dit à ses employés, vous savez, si chaque employé sauvait 50 cents par jour en faisant un petit geste différent, on sauverait 50 000 piastres par mois. Je peux pas te dire que c'est le commentaire le plus rassurant de l'histoire en matière d'économie, ça. Tu sais, quand tu demandes à tes employés de sauver 50 cents, là, ça commence à vouloir dire que les finances sont serrées un peu. Je dis pas que c'est ça, ça va vers la faillite, là. Ce que je te dis, c'est qu'ils ont effectivement des problèmes financiers. Ils ont 10 mois, puis c'est pas moi qui le dis, c'est Elon Musk lui-même, pour les corriger.
Ouais.
Ce qui m'a dérangé, c'est que, bon, oui, il y a des journalistes qui ont dit « Tesla se dirige-t-il vers la faillite? » Puis là, bon. Écoute, les amateurs ont réagi, mon homme, là, à un niveau... Écoute, c'est une véritable secte. Je m'excuse, il y a des gens que je connais qui ont des Tesla qui sont super sweet, là. Mais il y en a qui poussent vraiment. C'est une fake news, c'est pas vrai, c'est pas ça qu'il a dit. Écoutez, c'est un mémo interne. Il a été publié, le mémo, là. Arrêtez de dire que c'est pas vrai. Ça va pas bien, les finances chez Tesla.
Mais ça fait longtemps que ça va pas bien, les finances
chez
Tesla.
Ça n'a jamais bien été. Ils ont été profitables deux semestres.
C'est difficile. C'est difficile.
Puis, ils ont besoin d'argent pour renouveler les Model S, les Model X. La Model 3 a de la misère avec sa peinture. La Model Y n'est pas encore arrivée. À un moment donné, 3 milliards, tu vas pas loin. Je m'excuse. Dans le monde automobile, 3 milliards, là, c'est une bagatelle. Alors, on va arrêter de dire que les journalistes sont des méchants journalistes parce qu'ils disent que Tesla va pas bien. Écoutez, regardez les faits. Je vous dis pas qu'ils vont fermer. Ils vont peut-être être achetés par quelqu'un. Peut-être qu'ils vont arriver à des ventes incroyables en Chine. Je le sais pas. Mais pour le moment, ça va pas bien. Et même le président le dit. Mais ça va tellement loin, la réaction des amateurs, que j'ai vu sur un groupe Facebook quelqu'un qui a dit, écoutez, vous devriez faire comme moi, quand vous faites les mises à jour sur le véhicule, si vous les faites over the air, là, si vous les faites par les ondes cellulaires, ça peut coûter jusqu'à 15 $ à Tesla, fait que assurez-vous de le faire quand vous êtes branché sur le Wi-Fi.
Mm-hmm.
Hey, je m'excuse, j'ai payé mon char 60, 70 000, 75 000 piastres avec le service de cellulaire, puis tu me demandes à moi de courir après des réseaux Wi-Fi pour aller sauver 15 piastres à la compagnie, je veux dire, c'est plus de l'enthousiasme rendu là, c'est de la dévotion, là. Je veux dire, il y a des religions qui font ça, puis il y a du monde qui font Tesla qui font ça.
Ouais, mais d'un côté, je peux quand même comprendre la pensée de ces personnes-là, parce que, mettons, c'est sûr, c'est extrapolé en pensant que parce que tu vas sauver 15 piastres à Tesla en faisant tes mises à jour sur ton Wi-Fi, la compagnie fera pas faillite. Mais si la compagnie fait faillite, tu te ramasses avec une auto qui a plus de service, qui a plus rien, tu fais quoi?
Oui, mais c'était pas dans ce sens-là, par exemple. C'est clairement pas ça, là. Écoute, c'est la seule compagnie que je connaisse que ce sont les propriétaires eux-mêmes qui font le tour des salons de l'auto pour aller présenter les voitures, parce que la compagnie refuse de le faire.
Ouais, la compagnie prête pas de voitures aux journalistes non plus, à ce que je sache. C'est des voitures, des voitures de particuliers qui sont prêtées.
Tout le temps. Ça n'existe pas ailleurs, là. Moi, je trouve qu'on mise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je comprends que vous aimez votre voiture quand vous êtes propriétaire d'une Tesla, là. Mais là, ça frôle l'aveuglement volontaire, là.
Mais il n'y a pas Ferrari qui fait la même chose, puis on s'entend que Ferrari et Tesla, c'est deux choses différentes. Mais Ferrari non plus, peut-être pas de voiture aux journalistes, à ce que je sache.
Il en prête dans certaines régions. Si un jour tu t'en vas en Californie, si un jour tu t'en vas en Europe, il y a des possibilités d'avoir des Ferrari. Ici, il n'y en a pas parce que le volume n'est pas suffisant.
Okay.
Mais c'est parce qu'on s'entend pour dire que si c'est vendu 300 Ferrari au Canada, c'est beau.
Non, c'est ça. Non, mais c'est beau. C'est parce que j'avais déjà entendu dire que quand ils faisaient les Ferrari pour le guide de l'auto, c'était des propriétaires qui prêtaient leur voiture pour les essayer.
Des fois, non. Okay. Des fois, ça a été fait en Californie. Moi, je suis allé essayer la Ferrari California en Californie.
Ça tombait bien.
Oui, ça donne la même. C'est la cabriolet en plus, fait que c'est la payeur et une paye. Mais tout ça pour dire que, donc, je trouve que les gens, vraiment, et puis écoute, c'est presque honorable dans une certaine mesure, mais en même temps, cette attitude-là fait que ça, moi, je trouve que ça amène au contraire de la part des gens qui ne sont pas Tesla, presque un refroidissement pire que l'enthousiasme qu'on pourrait avoir.
Ouais.
Alors, il faut quand même être réaliste à l'égard de la compagnie et il faut se rappeler qu'il y a des éléments qui ne mentent pas. L'action de Tesla a perdu 43% depuis le mois de janvier. Elle est rendue à 200 quelque chose. Alors que Elon Musk, rappelle-toi, s'est fait blâmer par la SEC parce qu'il disait qu'elle serait à 420. Lui était prêt à arracher à 420. On n'est
Ouais.
pas là, là.
Non, pourtant,
On est
c'est
vraiment
bizarre parce que je vois, ça fait quelques camions de livraison de Tesla 3 que je croise sur l'autoroute. Fait qu'ils
oui.
en livrent des voitures, mais c'est ça,
Ils enlèvent, ils ne font pas d'argent avec.
c'est ça le problème.
Puis, quand ils font les voitures, ben, ils les font avec de la peinture qui décolle. Je veux dire, tu ne te rends pas service en faisant ça, là. Donc, c'est vraiment un problème assez important du côté de chez Tesla. Et additionne à ça le fait, puis là, encore une fois, c'est les méchants journalistes. Tu connais les journalistes qui sont des écœurants.
J'en
Puis
connais juste un journaliste de même.
là, si tu avais des bip-bip, ça serait le temps de le dire, ça serait des tonnes de
Ouais,
hein?
c'est ça, ouais.
Mais Consumer Report vient de dire que le système autopilote de Tesla, qui est en passant toujours sous étude aux États-Unis parce qu'on estime qu'il est responsable d'au moins deux décès, peut-être plus, ben, il a été dénoncé par Consumer Report comme étant dangereux parce qu'il y a le vilain défaut de couper le chemin des autres voitures puis de forcer les voitures qui suivent à freiner.
OK.
Fait que, il conduit vraiment en sans dessein puis il va couper les autres voitures quand il change de voie.
Mathieu,
Pas moi qui.
j'ai eu l'occasion de me le faire montrer en fin de semaine. Puis ce que ça a fait, ça le faisait bien. Mais c'est ça, oui, il y a des problèmes. Parce que ce qui est le fun, c'est que tu mets ton clignotant, puis si tu es sur l'autopilote, la voiture va regarder s'il n'y a pas rien du côté que tu veux changer de voie. Elle va changer de voie pour toi. Elle va prendre les sorties si tu le programmes dans le GPS. C'est super bien fait, mais c'est pas à point encore, là.
C'est pas à point, puis c'est justement là qu'il y a un problème. Et c'est là que, oui, elle regarde peut-être, mais elle regarde pas assez loin, et elle va couper les autres. Et ça a failli provoquer plusieurs collisions, forçant les autres à freiner derrière. Alors, tu sais, tout ça dans la même semaine, là. Ce que je viens de te dire là, je te parle pas de quelque chose qui s'est passé en 3 mois, là. Je te parle de quelque chose qui s'est passé depuis 8 jours à peine.
Ça en passe du stock chez Tesla en peu de temps?
Ben, c'est le fun, parce que, tu sais, nous autres, ça nous donne des bulletins de nouvelles, mais ceci étant dit, alors, quand on me dit, écoutez, Tesla, c'est la meilleure voiture du monde, ça se peut qu'elle soit bien le fun à conduire, puis j'en ai essayé, puis oui, j'ai trouvé ça le fun à conduire, je peux pas dire le contraire, puis je peux pas dire que Tesla a pas été important dans la promotion des véhicules électriques, mais on va arrêter de voir Tesla comme étant la panacée, la compagnie qui va sauver le monde, puis arrêter de dire que c'est une compagnie qui va super bien. Ça va pas bien dans la compagnie, les produits sont pas à la hauteur, les promesses sont pas tenues, les résultats financiers sont pas là, les technologies sont pas au point. À un moment donné, il va falloir que quelqu'un mette le pied à terre et dise, écoutez, là, il faut qu'on s'associe avec quelqu'un d'autre parce que sinon, on se dirige vers le mur, probablement dirigé par l'autopilote.
Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Tesla fera pas faillite, mais ça va se faire racheter à un moment donné par un autre constructeur ou t'sais, ça
Ben,
va juste pour les technologies, c'est quelque chose qui vaut la peine.
oui, mais Apple a fait une offre puis ils l'ont refusée.
Ouais, c'est ça. Mais à un moment donné, ils n'auront pas le choix de l'accepter,
Non.
là.
C'est ça. En tout cas, alors voilà, c'était ma montée de lait du matin. Comme je te dis, puis les gens disent, ah, Marc Bouchard, il haït Tesla. Je n'haïs pas Tesla. C'est juste qu'à un moment donné, il faut savoir être réaliste à l'égard d'une compagnie qui fait beaucoup, beaucoup d'esbroufe autour d'un produit puis d'un modèle d'affaires qui n'est pas nécessairement viable pour le moment. Tant mieux s'il devienne un jour, là. Je répète, je n'ai aucune intention de dénigrer l'importance que Tesla a eue au niveau du développement, de la promotion de la voiture électrique, mais ils le font pas parce que la compagnie est intelligente, parce que les gens qui ont embarqué là-dedans sont des profondément convaincus, puis ce sont eux autres, les apôtres de Tesla, qui font la promotion de la compagnie, parce que s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas ce sentiment de loyauté-là à l'égard de la compagnie, il y aurait, sincèrement, là, reprend exactement toutes les mêmes opérations que je viens de te mentionner, l'action qui baisse, l'autopilote qui est condamné, le président qui écrit à tout le monde pour dire, hey, il faut surveiller jusqu'à 50 cents par jour, envoie ça chez Ford, là, et les journaux seraient remplis. Et les pages Facebook seraient remplies de commentaires de gens qui disent « La maudite compagnie Ford, c'est de la merde! » Puis, ce serait exactement comme ça. Ah, parce que c'est Tesla, on n'a même pas le droit de le dire. Et ça, c'est la partie qui me dérange aussi.
Bon, c'est beau. Donc, Marc, on va terminer
Voilà,
là-dessus.
j'ai plus d'ulcère. Merci beaucoup.
C'est bon. Si les gens veulent t'écrire de gentils mots doux,
Ah ben,
en
sur ma
par
page
courriel ou
Facebook.
réseaux sociaux, comment font-ils cela?
Ben, sur ma page Facebook, Marc Bouchard, sur Twitter, Marc souligné Bouchard, et sinon à info@saroulradio.com, et tu auras à ce moment-là l'occasion de lire les propos parce que c'est une adresse que l'on partage. Et toi, mon cher, on te rejoint comment?
Sur Twitter, Ascalazormo, sur Facebook, Luc Desormeaux, sur Instagram, Desormeaux Luc, mais c'est tranquille ces temps-ci, donc, tu sais. C'est pas nécessairement la place où aller voir. Pour Ça roule radio, bien, il y a Ça roule radio sur Twitter, sur Facebook également. Et puis, vous pouvez nous télécharger à travers Google Play, à travers iTunes ou nous écouter sur Spotify. On est aussi disponible directement sur notre site, saroulradio.com. On est disponible à travers deux radios web, sportradio.ca et Radio Média Plus. Et puis, si vous voulez d'autres styles de contenu, bien, je fais aussi partie d'un podcast qui s'appelle Réalité Augmentée. Et j'ai une chaîne YouTube où je parle de technologie, jeux vidéo et imprimante 3D. C'est Luc Desormeaux sur YouTube. Donc, merci à tous d'avoir écouté cette émission encore une fois cette semaine. Merci Marc et puis on se reparle si tout va bien et si mes rénovations sont terminées ou pas en plein milieu d'être fait. On se reparle la semaine prochaine. Bye tout le monde.
Bye bye.